Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain.
Et après?
Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire.
Fataliste.
Si tu veux le résultat elle-même.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Jacques Prévert, 30 ans, écrit en mauvais français pour les mauvais français. C'est ainsi que se présentait dans la revue Bifur le jeune poète qui donnait à lire ses tout premiers vers. Il est ensuite devenu célèbre avec le succès de son recueil Paroles. Mais c'est le cinéma qu'il aimait le plus parce qu'il s'agit d'un art qui se pratique en groupe. Or, Prévert détestait la solitude. Il y avait en effet de la mélancolie à oublier chez ce poète qui avait déclaré au moment de la naissance de sa fille que désormais, il avait perdu le droit de mettre fin à sa vie. Et pourtant, quelle joie de lire ces poèmes, ils sont drôles et charmants, irréels et profonds, ils vont chercher du côté du surréalisme et du merveilleux, comme nous l'a expliqué mardi Daniel Cassiclia-Laster au cours d'une émission à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Mais la colère, elle surgissait également dans un grand nombre des œuvres de cet artiste engagé, dont Carole Orway nous a brossé le portrait politique hier dans une émission consacrée également aux bons copains de Prévert ainsi qu'à son rapport à la musique et à la chanson. Et aujourd'hui ?
Atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne ! Bonne pêche et bonne atmosphère !
Aujourd'hui, pour nous pencher sur le cinéma de Prévert, nous sommes en compagnie de l'historien du 7e art et Noël Herpe. On le connaît également comme écrivain avec, par exemple, le livre « Souvenirs d'écran » aux éditions Bartilla ou encore son journal « En ruine », c'était chez Gallimard. Il est également cinéaste avec son film « Fantasmes et fantômes » qui vient de sortir en DVD chez Tamassa. Et puis on attend incessamment la sortie de son prochain opus « La Tour de Nesle ». Et il a écrit sur le cinéma de Prévert dans l'article « Prévert dialoguiste ou la voix des autres » qui figure dans les actes du colloque de Cerisy consacré au poète et scénariste et publié par Classique Garnier. Allez, bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres.
Bien sûr, toi, les mots, les phrases, ça t'est froid.
T'en as pas besoin.
Tu racontes de petites histoires sans rien dire. Mais tu la racontes bien, tu sais. Tu peux même dire que tu m'as étonné. Tu parles avec tes jambes, tu réponds avec tes mains, un regard, un haussement d'épaule, deux pas en avant, un pas en arrière, et hop, ça y est, ils ont compris, au paradis.
Ouais, ils comprennent tout. Pourtant, ce sont de pauvres gens. Mais moi, je suis comme eux, je les aime. Je les connais, leur vie est toute petite, mais ils ont de grands rêves. Et je voudrais pas seulement les faire rire, je voudrais aussi les émouvoir. Leur faire peur, les faire pleurer.
Et tout ça, sans rien dire?
Ah oui, sans rien dire.
Bon, c'est difficile.
Mais tu crois que c'est impossible?
Difficile, c'est pas la même chose.
Elle se présente à tous dévoilés. Entrez, messieurs, entrez! On ne pêche en sortant! N'hésitez pas, messieurs, c'est un spectacle voluptueux, audacieux et troublant!
Un extrait des Enfants du Paradis de Marcel Carnet dans un scénario de Prévert pour commencer cette émission. Bonjour à vous Noël Herpe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à distance. Alors il paraît que dans votre prime jeunesse, vous aviez l'habitude de recopier des dialogues de films de Prévert. Est-ce que par exemple, celui qu'on vient d'entendre, vous auriez pu prendre plaisir à le recopier ?
Ah oui, tout à fait, parce que j'étais très fétichiste et déjà. Et à l'époque, les films, il n'y avait pas le magnétoscope, donc c'était une grand-messe, donc j'obligeais mes parents à se taire. Et puis j'enregistrais sur cassette les films de répertoire qui passaient à cette heure-là en prime time. Et ensuite, je passais des journées entières à les retranscrire sur des petits cahiers d'écoliers. Donc j'ai retranscrit comme ça, en effet, Hôtel du Nord, qui n'est pas d'ailleurs un film écrit par Prévert, mais par Janson.
En entier, vous les retranscriviez totalement?
Tout à fait, Les Disparus de Saint-Agile, etc. Donc je me réappropriais le film et j'en faisais un objet littéraire pour essayer de fixer une espèce de fantasme enfui. Hein, comme le film était un fantôme à l'époque, on n'en avait pas de traces. Il faut rappeler dans les années, enfin les années 70, c'était encore quelque chose de très fugace. Et c'est vrai que ce qui me fascinait dans le cinéma des années 30 et 40, c'était les dialogues, c'était beaucoup les dialogues, oui, les dialogues de Pagnol, de Sacha Guitry, de Janson, mais aussi bien sûr et avant tout ceux de Prévert.
Alors on parlera des dialogues de Prévert aussi dans cette émission, mais est-ce que cet exercice de recopiage vous a permis de rentrer un peu dans la mécanique des scénarios de Prévert ?
Oui, par exemple, je me souviens avoir réécrit parfois d'oreille, hein, à l'oreille. Donc parfois, je me trompais aussi sur certaines retranscriptions. Il y a des mots que je comprenais pas, que ma mère m'expliquait, mais qui n'étaient pas toujours très audibles pour le gamin de 10 ans que j'étais. C'était à la fois une réappropriation et en même temps une manière de me couler un peu dans la musique de Prévert, qui est en effet une musique très particulière, une musique faite de phrases toutes faites, de phrases récurrente, répétitive, avec d'infimes variations dans la répétition. Il y a un côté oracle chez Prévert, c'est une sorte de parole universelle, et en même temps, il y a d'infimes petits changements qui font que tout d'un coup, c'est un personnage qui parle. Mais en même temps, c'est très frappant parce qu'il y a des phrases qui reviennent d'un film à l'autre. Par exemple, je te défends de parler de tel ou tel autre personnage. Il y a des phrases, des espèces de phrases, poupées gigantes, ou des phrases valises qui reviennent d'un film à l'autre, comme si il était traversé par un langage universel dont il se veut le réceptacle. Et ça, c'est ce côté à la fois anonyme et très personnel en même temps, parce que c'est quand même la langue de Jacques Prévert, ça me frappait beaucoup quand j'étais gosse, et c'est sans doute ce que j'aimais le plus dans les films de Marcel Carnet, par exemple.
C'est un cinéma de réplique aussi culte, il y en a beaucoup qui restent et qui sont même passés presque dans le langage court. T'as de beaux yeux, tu sais, Paris est tout petit, ce genre de phrases-là.
Ce qui est très frappant chez Prévert, c'est son art de faire de la poésie avec le plus banal. Hein. Bon, je suis pas le premier à le dire, mais c'est vrai que dans ses films qu'il a écrits pour Carnet, mais pas seulement, on en reparlera sans doute avant Carnet et après Carnet, il est quand même le premier à créer un style de dialogue de cinéma et en même temps à partir de phrases de si vous voulez pour moi Prévert c'est un peu le Malraux du café du commerce. Il a une sorte de lyrisme comme ça à partir de choses extrêmement banales et simples mais qui à force d'être répétées sculptés, scrutés, creusés, deviennent poétiques. Notamment un jeu sur le cliché, le stéréotype, l'archétype, dans des phrases comme Jean-Louis Barrault, par exemple, dans Génie, quand on est dans le fond, vaut mieux rester dans le fond, ou bien dans le drôle de drame, à force d'écrire des choses horribles, les choses horribles finissent par arriver. Cette espèce de phrases qui se reflètent en miroir à l'infini, ce langage qui s'enivre de lui-même, c'est évidemment la marque de Prévert poète, on le sait, mais c'est d'abord celle de Prévert dialoguiste, puisque en effet, Prévert a été très connu et reconnu du grand public bien avant d'être reconnu comme poète. Sa poésie était donc d'abord un effet de cinéma.
Donc Prévert est un dialoguiste qui prête sa voix aux autres, pour reprendre le titre de votre article Noël Herp. Je sais que vous n'avez pas forcément envie qu'on parle des films les plus célèbres, parce qu'il y a d'autres choses à dire au sujet du cinéma de Prévert. Peut-être un mot quand même sur ce duo Carnet et Prévert et les grands films qui en sont sortis, Quai des Brumes, Les Visiteurs du Soir, Les Enfants du Paradis. Ce sont quand même des chefs-d'œuvre pour vous?
Ah oui, ce sont des chefs-d'œuvre absolus, oui, et qui tiennent à un équilibre fragile et très mystérieux, à une alchimie entre le tempérament de Prévert débordant, généreux, chaleureux, anarchiste, collectif, comme vous l'avez dit, c'était un homme qui aimait s'entourer, et celui de Carnet, qui est beaucoup plus dans la retenue, dans la rétention, dans le puritanisme, dans la méfiance, dans le contrôle. Prévert était hétérosexuel, Carnet était homosexuel, Prévert était un homme engagé politiquement, Carnet ne l'était pas du tout, Prévert avait quelque chose de baroque alors que Carnet était classique. Donc c'est vraiment la rencontre du feu et de la glace, et je pense que c'est ce qui fait l'extraordinaire réussite des films de Carnet-Prévert, à commencer par Drôle de Drame, qui est un film complètement surréaliste, mais filmé avec une froideur impeccable.
Mais est-ce qu'on peut faire la part entre le travail de l'un et de l'autre? C'est difficile quand même.
Impossible. totalement impossible. À telle enseigne, tous les critiques s'y sont cassés les dents, et moi-même le premier et le dernier. Et je mets au défi qui que ce soit de voir ce qui appartient à Carnet. Évidemment, le dialogue est de Prévert, mais en même temps, la thématique, par exemple, est très propre à Carnet aussi. Et vous avez même des films de Carnet qui sont plus prévertiens que ceux qu'il a fait avec Prévert. Je pense, par exemple, à Juliette ou la Clé des songes qu'il a fait après Prévert et qui a l'air vraiment d'être écrit par Prévert. Donc, je pense qu'il y a aussi des thèmes. Il faut pas croire que Prévert a apporté des thèmes que les cinéastes se sont contentés d'illustrer. Je pense aussi qu'il apportait aux cinéastes les thèmes dont ils avaient envie. Mmh. Il n'écrit pas les mêmes scénarios, il n'écrit pas les mêmes dialogues pour Carnet, pour Christian Jacques ou pour Autant Lara. Donc il a un côté caméléon qui est très intéressant aussi.
Mais alors pourquoi est-ce que vous semblez considérer qu'il faut aller chercher Prévert aussi, ou peut-être même en priorité du côté de ces films dits mineurs, qui n'a d'ailleurs pas toujours signé, où dites-vous, se révèlent les mouvements de son écriture?
Parce que je dirais qu'il y a un côté un peu poète officiel dans certains, surtout dans les derniers films qu'il a fait avec Carnet, dans Visiteurs du soir, Les Enfants du Paradis, qu'un grand critique qui s'appelait Roger Lénard a un tout petit peu égratigné comme des films où Prévert se gonflait dans une ambition dramaturgique pour laquelle il n'était peut-être pas tout à fait fait. Je le pense pas d'ailleurs, c'est des films que j'admire beaucoup, mais c'est vrai que il y a quelque chose de secret, il y a un côté musique de chambre chez Prévert qu'on trouve un peu plus dans ses premiers films, dans ses films des années 30, et dans des films peut-être un petit peu moins ambitieux. Il faut savoir écouter aussi cette musique de chambre. Et on l'entend, alors on en reparlera sans doute dans les films qu'il a fait avec son frère, mais aussi dans des films dits commerciaux, et où pourtant il glisse en contrebande certaines de ses tendances ou de ses préoccupations. Et je pense notamment, justement, puisqu'on parlait de Christian Jacques, aux films qu'il a écrits pour Christian Jacques, qui sont parmi ses meilleurs textes de cinéma. Je pense notamment à Ernest le Rebelle, qui est un film absolument délirant, et alors pour le coup d'une inspiration burlesque échevelée, avec un Fernandel qui se retrouve esclave dans une plantation de bananes dans un pays d'Amérique du Sud imaginaire, avec un dictateur fou joué par Robert Le Vigan. Enfin, c'est un film absolument incroyable. Je pense au Disparu de Saint-Agile, bien sûr, qui est un chef-d'œuvre de prémonition politique et de mystère poétique. C'est un film que Prévert n'a pas signé. Je me demande pourquoi, d'ailleurs, mais c'est sans doute un de ses plus personnels. Mmh. Et il me semble que dans un film comme Les Disparus de Saint-Agile, ou dans Ernest le Rebelle, ou dans Ciboulette d'Autant Lara, ou dans L'Hôtel du Libre-Échange de Marc Allégret, il exprime des thématiques qui sont les siennes, mais sans poser forcément au grand artiste. Et c'est
alors,
ça que j'aime bien aussi.
Écoutons justement l'un des films qu'il a fait avec son frère, c'est L'Affaire est dans le sac, dont voici un extrait.
Désiré, monsieur, je voudrais un béret.
Un béret?
Oui, un béret.
Ici, vous avez le salon. Le couloir, là se trouve le coffre-fort, rien à faire.
Alors, c'est pour aujourd'hui ce béret?
Parfaitement, voilà monsieur.
Un dernier mode de Londres, un béret avec une visière sur le devant. Permettez monsieur. Là, ça se portera beaucoup cette année.
Non.
Je veux un béret. Un simple béret. Un béret français.
Au nom de Dieu.
Voilà monsieur. Là, ici, là. Voilà, monsieur.
Ah, à la bonne heure. Parce que le béret, il n'y a que ça qui me va. La casquette, c'est bon pour les ouvriers. Le chapeau, c'est pas pratique.
Oui.
Tandis que le béret, c'est simple, c'est chic, c'est coquet. Combien vous dois-je?
62 francs, monsieur.
Voilà.
Vous prenez votre vieux chapeau?
Ouais, ouais.
Alors voici, monsieur. Voilà, monsieur.
Merci beaucoup.
Ça, c'est la fameuse scène où Brunius, raide comme un piquet, vient faire l'acquisition d'un béret français. C'est évidemment plein d'humour. Le Père Ubu n'est pas très loin. Noël Herbe, c'est un film d'une première période que vous avez chère à votre cœur. Comment est-ce qu'on pourrait définir un petit peu cette période des années 30 ?
Bah, la première période de Prévert, c'est une période qu'on pourrait qualifier de post-surréaliste, avec une tendance anarchiste. Ce sont des films qui jouent sur les absurdités du langage, sur l'aliénation du langage. En fait, les personnages sont pris dans le langage et n'arrivent pas vraiment à s'en sortir. Ils sont un peu kidnappés par le langage.
Comment ça, kidnappés par le langage?
Bah, ils sont comme des automates. Hein. Ils n'arrivent qu'à répéter des phrases toutes faites. Alors effectivement, le béret français ou le gamin dans l'affaire dans le sac qui dit « Je veux une locomotive en or, je veux une locomotive en or », etc. Oui, vous avez des comme ça des personnages où vous avez même un perroquet dans Un oiseau rare, hein, si je me souviens bien, de Richard Potier, qui je sais plus trop ce qu'il répète, des slogans publicitaires. Donc on a l'impression que les personnages sont agis par le langage, qu'ils n'ont pas d'existence propre, qu'ils ne peuvent que répéter comme des mécaniques robotiques, des phrases toutes faites. Donc ça, c'est la recherche de Prévert de la liberté à l'intérieur de l'aliénation du langage. C'est son côté surréaliste, c'est son côté critique du langage qui anticipe peut-être sur certains écrivains d'après-guerre.
C'est peut-être la jeunesse aussi plus insouciante de Prévert à ce moment-là.
Oui, tout à fait, oui. Et puis, c'est le côté avant-garde qui vient des années 20 et qu'il essaie de poursuivre dans les années 30. Pas simplement dans L'affaire est dans le sac, d'ailleurs, mais dans les autres films qu'il va faire avec son frère Pierre. À L'affaire est dans le sac, j'avoue que je préfère Voyage surprise et surtout Adieu Léonard, c'est un film très très drôle qu'ils ont fait ensemble pendant l'occupation. Et où Julien Carrette, sous la pression d'un horrible maître chanteur joué par Pierre Brasseur, s'évertue à assassiner Charles Trenet. C'est un film très amusant, un des rares exemples, comme drôle de drame d'ailleurs, d'humour noir à la française parfaitement réussi.
Donc il faut dire aussi,
ce jeu sur le langage.
C'est qu'il y a quelque chose qui tient aussi à ses débuts du cinéma. Alors c'est pas tout à fait les débuts du cinéma, mais encore quelque chose de très artisanal au moment où les deux frères Prévert travaillent ensemble. Je vous propose d'écouter justement à ce sujet ce qu'ils disaient sur les tournages de leurs films de cette époque-là.
C'était une époque heureuse. C'est-à-dire c'était l'époque où le film était encore pas tout à fait, mais presque entièrement le cinéma méprisé de l'élite, vous voyez ce que je veux dire. C'était encore régi par des lois foraines, voyons. Ça n'était pas pris au sérieux par l'intelligentsia. C'était un peu le cinéma sauvage.
D'ailleurs, c'était son charme, d'ailleurs.
Mais c'était un charme merveilleux. Je ne suis pas regretteur du passé, mais c'était une façon différente de travailler. Et c'est assez curieux parce que il y a des gens très jeunes, aujourd'hui, qui font de très jolies choses, des choses drôles, ou belles, et il travaille au fond, comme mon frère a travaillé à cette époque, puisqu'il a fait ce film très rapidement. Lui, c'était son premier film, ça a failli être son dernier. Oui.
Non, il faut dire que c'était une expérience qui avait été tentée par un ami à nous qui s'appelait Charles David, et qui à l'époque était directeur des studios Pathé, à Joinville, et qui nous aimait bien et qui avait envie de nous aider à faire notre premier film. Et alors un jour, il nous a dit, il y a des décors qui ont servi à Léonce Perret, à Pierre Colombier, qui était à l'époque des réalisateurs de films fort connus, qu'on va démolir dans 8-10 jours, si vous voulez. J'en ai parlé à la direction, on est d'accord, profitons-en et tournons un petit film dans ces décors. Alors on les modifiait, etc., avec un peintre d'origine russe, du reste, qui s'appelait Reschenko, qui travaillait au pistolet et au vin rouge.
Oui.
On lui montrait le décor, on lui disait, il faut le transformer, il faut que demain il soit prêt. Et selon l'importance du travail qu'on lui demandait, c'était tant de litres. Et le lendemain matin, il était ivre mort, mais le décor était prêt. Le décor était prêt.
Loin des rumeurs et du bruit des villes, loin des joies et des plaisirs futiles, tout le long de la route tranquille, le soleil et moi n'attendons que toi. Toi que mon cœur appelle, viens, la vie est si belle. Le printemps chante dans la campagne, le soleil fait de l'œil aux montagnes.
On peut voir en régie des têtes qui dansent sur cette musique. Alors, on a l'impression, en écoutant Jacques et Pierre Prévert parler, Noël Herbe, dans cette archive, que c'était une période heureuse et aussi une période disparue, que ce moment où il faisait du cinéma dans les années 30, cette première période dont vous parlez et que vous appelez magique, contrairement à une autre période qui va venir et que vous qualifiez de paranoïaque. Alors, qu'est-ce qu'il y a de paranoïaque dans un deuxième cinéma de Prévert ?
Bah, si vous voulez, effectivement, l'époque du réalisme magique, c'est en effet celle de La Ferrée dans le sac, de Ciboulette, d'un groupe de copains, et surtout du groupe Octobre, hein, avec lequel travaille beaucoup Prévert à ce moment-là, et dont on retrouve l'équipe dans ses films, puisque la plupart des gens qui travaillent avec Prévert au cinéma, c'est Maurice Baquet, c'est Lou Bonin, c'est Jean-Louis Barrault, Fabien Loris, etc. Donc des gens qui faisaient partie de la bande à Prévert et qui l'exportent dans sur les plateaux sur lesquels ils travaillent. Il y a un film qui fait la charnière entre cette période-là et la période que j'appelle paranoïaque, c'est évidemment Le Crime de Monsieur Lange, qui est un film très important pour qui veut comprendre Prévert dialoguiste, puisque c'est un film qui exprime une certaine utopie anarchiste, mais en même temps ça se passe mal avec Jean Renoir, qui ne voudra jamais retravailler avec Prévert, bien que le film soit magnifique, parce que Jean Renoir va aller du côté du communisme militant, en tout cas dans les films qu'il réalise en compagnon de route du Parti communiste, alors que Jacques Prévert va s'en écarter.
Alors en quoi c'est charnière justement ? Ce film-là.
Parce que il y a à la fois le côté groupe Octobre et en même temps un adieu au groupe Octobre et déjà une émergence de la veine paranoïaque avec ce personnage de Jules Berry, le patron Ripoux qui vient mettre à mal les espoirs des ouvriers qui voulaient se former en coopérative.
Mais qu'est-ce que ça veut dire paranoïaque ?
Dans la mesure où tout d'un coup l'être humain est dépossédé de son identité, projeté dans une histoire qui le dépasse et dont il ne maîtrise plus les fils. Hein. Ça commence avec, alors officiellement, on pourrait dire que le film vraiment paranoïaque, c'est Drôle de Drame, avec ce personnage de Michel Simon qui ne peut même plus se montrer que sous une fausse barbe, qui est dépossédé de son identité, qui est obligé de se cacher, de se réfugier dans un quartier chinois, quelle déchéance, avec sa femme, une grande bourgeoise jouée par Françoise Rosé. Bon, donc il y a cette espèce de perte d'identité du français. Alors en l'occurrence, c'est pas un français, c'est un écrivain anglais qui écrit des... Enfin, c'est un botaniste qui écrit des romans criminels sous pseudonyme. Donc, il y a cette idée du dédoublement de personnalité. On va retrouver ça dans l'affaire du courrier de Lyon, d'Autant Lara, avec également le thème du jumeau, du sosie. Mais on trouve ça, en fait, dès 1936, avec un film écrit pour Autant Lara, qui s'appelle Mon associé Monsieur Davis, et où il y a déjà ce thème du dédoublement de la personnalité, de la perte d'identité. On le retrouve dans Anas le Rebelle, etc.
Ça vient d'où? C'est biographiquement qu'il faut expliquer cette seconde période, ou est-ce que c'est par rapport à l'histoire de France et d'Europe dont on sent qu'elle va devenir de plus en plus tragique?
Bien sûr. C'est comme si le français, par la plume de Jacques Prévert, le français se retrouvait en quelque sorte dépossédé de son histoire et ne comprenant plus ce que ça raconte. Il me semble que pour les Français des années 30, il y a eu une espèce d'aveuglement, de déni, où on ne voulait plus trop voir ce qui se passait et où on se réfugiait dans une sorte de monde un peu fantasmatique ou fictionnel. Le cinéma français de cette époque en témoigne. Hein. Le meilleur exemple de ça, d'ailleurs, c'est les Disparus de Saint-Agile, avec une menace de la guerre, on en reparlera peut-être, qui est une menace de la guerre qui est omniprésente et qui n'est jamais exprimée que indirectement. Mais c'est sans doute pourtant un film qui va très, très près de cette notion.
Ben alors parlons-en tout de suite, mais je voudrais qu'on écoute d'abord un petit extrait justement des Disparus de Saint-Agile.
Homme, sorgue et macroix, je l'ai trahiot, en vérité.
Quant à vous, Mazo, j'espère que vous n'avez pas alerté tout le pays. Enfin, j'entends que ce regrettable incident soit ébruité le moins possible.
Monsieur le directeur, j'ai été remarquablement discret. Et pourtant...
Oui, je vous remercie, Mazo. Vous pouvez disposer.
Bien, monsieur le directeur. Et pourtant, je suis extraordinairement angoissé.
Monsieur Mazo, je vous ai demandé de vous retirer.
Bien, monsieur le directeur. Et je suis extraordinairement angoissé parce que j'ai la conviction profonde que le pauvre petit Sorgue a été hypnotisé. Et je suis certain qu'il y a ici quelqu'un qui a le mauvais œil, et je le prouverai.
Eh bien, Mazo, qu'est-ce que vous faites là?
Je réfléchis. Je suis de plus en plus persuadé que le gosse a été endormi.
Endormi?
Endormi, oui, je sais ce que je dis. Hypnotisme. Les yeux. Vous pouvez pas comprendre ces choses-là, monsieur Planet, puisque vous dormez jamais, vous.
Pas tout, Mazo, c'est peut-être Planet qu'il a.
Et quoi?
Le mauvais œil.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors parlons un peu de ce film Noël Herpe de Christian Jacques, Les Disparus de Saint-Agile, sur un scénario de Prévert. On peut peut-être parler un tout petit peu de l'histoire de cette disparition mystérieuse d'enfants membres de la société secrète des Chiche-Capons qui vénère le squelette de la salle de sciences naturelles. C'était un roman, le roman de Pierre Véry, qui a été adapté au cinéma.
Un roman de Pierre Véry qui se passait avant la guerre de 1914, avec un côté un peu grand maulne, un peu poétique, et dont Jacques Prévert donc va transposer dans les années 30, enfin dans les années 30 assez abstraites. Et c'est à mon avis son chef-d'œuvre, parce que c'est un film où s'illustre toute sa veine poétique, mais en même temps avec une dimension politique de témoignage décalé sur l'histoire, presque prémonitoire, puisque nous avons à la fois les Chiche-Capons, qui sont des jeunes gens dans un lycée qui forment des conspirations pour un peu se moquer des adultes, mais qui préfigurent les futurs résistants de la France libre qui vont
et qui veulent partir aux États-Unis d'ailleurs, qui rêvent de
la libre Amérique, hein, la libre Amérique. Oui. Le personnage du professeur d'allemand joué par Eric von Stroheim, qui est un peu le sale étranger. Le personnage du professeur qui fait de la fausse monnaie, joué par Michel Simon, qui s'est fait la moustache d'Adolf Hitler, et les professeurs qui sont un peu des faux monnayeurs qui préfigurent les faussaires de Vichy. Donc tous les éléments sont en place, et ce film nous raconte Vichy, nous raconte l'occupation 2 ans avant. C'est absolument hallucinant. C'est un film, c'est une sorte de film. C'est pas un film. Oui, on pourrait dire que c'est un film de politique fiction avant la lettre. Et c'est là que Jacques Prévert s'avère, à mon avis, un très grand mythologue. C'est-à-dire quelqu'un qui vraiment exprime l'inconscient collectif de son époque mieux que personne.
Et est-ce qu'il en a conscience, selon vous, de révéler cette structure cachée de l'ère du temps quand il fait ce film?
Je ne crois pas. Je pense que justement, c'est ça qui est bien, c'est que dans Les Disparus de Saint-Agile, il en est sans doute moins conscient que dans Le Quai des Brumes. Dans Le Quai des Brumes, il y a un côté, il y a une thématique. C'est un très beau film que j'admire beaucoup, mais c'est un film qui exprime l'angoisse des accords de Munich, de la d'une certaine sinistrose propre à l'année 1938, une sorte de défaite de démocratie devant Hitler. Et le film exprime ce désespoir historique. Alors que Les Disparus de Saint-Agile est un film qui a l'air a priori léger, et pourtant où se disent des choses terribles, où un surveillant dès que les enfants se mettent à se rebeller en pleine nuit, et à plusieurs reprises au cours du film, ouvre les fenêtres en criant « ça y est, c'est la guerre ». Jamais dans le cinéma français des années 30, aucun personnage ne faisait allusion à la guerre qui menace. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on était dans le déni, dans la sublimation, dans l'idéal, et tout d'un coup, dans Les Disparus de Saint-Agile, la guerre est nommée par son ombre portée sur un petit microcosme de collégiens qui deviennent le microcosme même de la France.
Et donc on a l'impression que d'un côté, il y a cette jeunesse innocente des collégiens, et au-dessus, la génération coupable, la génération des professeurs.
Oui, alors ça, c'est un thème très prévertien. C'est la dichotomie entre les salauds et les innocents, entre les adultes et les enfants. C'est un thème qu'on peut juger manichéen, un peu simpliste, mais c'est un thème auquel il reste fidèle jusqu'au Roi et l'Oiseau, hein, jusqu'à ses dessins animés avec Paul Grimaud, en passant par un scénario qu'il écrit à cette époque-là pour Marcel Carnet, d'ailleurs, hein, L'île des enfants perdus, qui est un scénario sur l'évasion des bandes d'enfants de Belle-Île, avec toute la population qui se met à pourchasser ces pauvres enfants. Donc, ça reprend d'ailleurs une chanson qu'il a écrite pour Marianne Oswald, de la chasse à l'enfant, etc. Donc il y a vraiment cette idée, effectivement, de la génération des salauds, la génération des adultes, qui font peser leurs erreurs, leurs fautes, leur moralisme, leur puritanisme et leur hypocrisie sur la pureté des enfants et sur leur aspiration au bonheur. C'est un thème que Prévert partage avec Anouilh, à mon avis, qui est un autre auteur important de cette époque et dont les débuts sont à peu près contemporains des siens. C'est un thème d'époque, mais c'est un thème qu'à mon avis, il illustre dans ce film d'une manière très belle. Alors il y aura d'autres films sur l'enfance, il y aura L'Enfer des anges, auquel il va plus ou moins participer pour Christian Jacques, mais qui est un moins bon film. À mon avis, Les Disparus de Saint-Agile mérite vraiment d'être redécouvert et réévalué, pas seulement comme un film de Christian Jacques, mais comme un chef-d'œuvre de Prévert.
Alors, vous parlez de la politique sous-jacente, presque inconsciente, hein, dans ces films paranoïaques. Est-ce qu'il y a toujours de la politique, selon vous, dans les films des scénarios de Prévert?
Non, je trouve pas. J'avoue que je vais peut-être m'inscrire un peu en faux contre Carole Orway ou d'autres spécialistes de Prévert que j'estime, mais pour moi, Prévert est quelqu'un qui, à partir d'un certain moment, je dirais pas qu'il est apolitique, mais c'est plutôt quelqu'un qui exprime l'inconscient collectif d'une manière pas forcément explicite, d'une manière souvent détournée.
Donc on a trop cherché de la politique dans ces films.
Par exemple, sur Les Visiteurs du soir, on a absolument voulu voir dans Les Visiteurs du soir une métaphore de la résistance à travers cette statue des amants dont le cœur continue de battre sous la férule hitlérienne. Je suis pas sûr que Prévert y ait vraiment pensé. Quand vous prenez certains films qu'il a écrits sur l'occupation, comme Le Soleil a toujours raison, par exemple, de Pierre Billon, vous avez une grande ambiguïté qui fait que parfois on peut se demander s'il n'avait pas certaines sympathies pour le camp adverse. Je ne le pense pas d'ailleurs, mais je pense que comme tous les grands poètes, il est énigmatique, opaque, ambivalent, etc. Et qu'il faut pas non plus trop vouloir interpréter dans un sens politique tel ou tel message. Alors évidemment, ça a arrangé bien Marcel Carnet après la guerre de dire que Les Visiteurs du Soir avait été un film de résistance ou Les Enfants du Paradis, mais je n'en crois rien. Hein. Je pense que Prévert, la richesse poétique de Prévert, Dieu merci, déborde tout ça. Qu'il témoigne inconsciemment de son temps, ça c'est très fort. Et c'est ce qui fait la beauté de son œuvre de dialoguiste, mais qu'il veuille faire passer un message politique, je n'en suis pas du tout persuadé.
Alors on va continuer à parler du cinéma de Prévert avec vous, Noël Herbe, mais pour l'heure, et comme chaque jeudi, c'est le moment de retrouver notre traditionnelle carte blanche.
La Compagnie des œuvres. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et c'est aujourd'hui à Olivier Barbaran que nous l'avons proposé cette carte blanche. Bonjour à vous Olivier.
Bonjour.
Alors vous êtes poète, vous êtes aussi inspecteur général de l'éducation nationale et aujourd'hui vous nous livrez votre calendrier prévertien. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, il s'agit en effet d'un calendrier, c'est-à-dire d'un Prévert mis en année, en 1976, première canicule d'une vie qui en connaîtra d'autres. Dans la torpeur d'après-midi déjà confinée, j'ai extrait de la bibliothèque paternelle Parole, livre gris qui m'avait un peu intimidé par sa couleur, sa couverture reproduisant un mur griffé de graffiti, où saignent en lettres grasses et rouges, titre et nom de l'auteur. L'image est de Brassailles, comme plus tard je l'apprendrai. Et je découvre que le tendre avocat des cancres, dont on me faisait réciter les comptines à l'école, présente des insolences plus affranchies, d'admirables grincements, un art de la caricature et même du jeu de massacre. Cette liberté, je la rêve mienne. En 1977, dans une galerie marchande de la banlieue troyenne, un buraliste vendait quelques livres disposés dans un tourniquet, comme ceux qui proposent au choix les cartes postales. Quand j'achète la presse parentale, j'ai l'autorisation de prendre un folio. Sans doute parce qu'il vient de mourir, Prévert est alors abondamment servi. La couverture de La pluie et le beau temps montre un fou à grelots portant au-dessus de sa collerette en guise de tête une sorte de mandarine verte, d'une souriante et cependant inquiétante étrangeté. C'est un collage de Prévert, m'apprend la quatrième de couverture. C'est dans cette édition que j'ai découvert Étranges étrangers, qui me paraît ce qu'on fait le mieux en matière de poésie politique, parce que la langue y tangue et danse, que le jeu des mots assure une liberté contre le béton de l'idéologie ou la glu des sentiments humanitaires.
Et alors les films de Prévert, vous les avez découverts à cette même époque ?
J'imagine que c'est à la télévision, dans la foulée des hommages consécutifs à la mort du poète, que j'ai découvert son cinéma. Mais Étrange d'étranger, cela sonnait déjà comme drôle de drame. On sait que Prévert fut le dialoguiste de Carnet, dans une longue aventure où je ne suis pas loin de penser qu'il a pu donner le meilleur de lui-même. Bizarre, bizarre, moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Systématique, la répétition dans les dialogues peut disqualifier les échanges, mais peut tout autant ouvrir des portes libératrices. Quand un mari meurt, la femme pleure, c'est une chose qui se fait. Une seconde vie, ça n'est pas une vie. Douce ou amère, la fantaisie de chaque scène évite à la joyeuse satire tout dogmatisme, ce sérieux qui ankylosa le surréalisme ou qui alourdira l'absurde à majuscule des années 50, deux esthétiques que le film côtoie sans s'en lester. C'est en 79, dans un cinéma du 5e arrondissement, que j'ai revu Drôle de drame. Connaissant déjà le cliquetis des dialogues, je suis retenu par d'autres trésors. Michel Simon, savant spécialiste du mimétisme des mimosas, est contraint pour gagner sa vie d'écrire des romans policiers dont il déteste la violence. Mais cette laide et timide créature n'a pas la moindre imagination et se contente de mettre à l'écrit les fables du laitier, grand et beau garçon, amoureux, qui débite des horreurs pour le plaisir tout innocent de retenir l'attention de sa belle. L'alibi de la livraison pour courtiser fait que l'archange laitier envahit la cuisine de bouteilles blanches dans une démesure tout à fait folle à l'image, qui fait pendant à la surpopulation d'enfants qu'un travelling arrière révèle autour de la table de l'évêque anglican. Louis Jouvet a prêté à ce tartuffe son élégance de beau vampire. Une cuisinière, en 1937, le Front populaire irradie encore, rend son tablier, craignant ce qu'elle appelle une insolation sous les brillances des cuivres. Au souple et frêle Jean-Louis Barrault est confié à contre-emploi le rôle d'un terrible assassin, tueur de boucher qui ajoute à sa grâce d'acrobate la poésie d'un grand vélo. Dans un texte de 63 intitulé Michel Simon, Prévert dira tout ce qu'il faut dire du rôle principal. C'est un seigneur, un clochard étoilé, un impeccable lord de la rue des Anglais, un génial idiot de vaudeville. Dans Drôle de drame, à chaque fois que Michel Simon apparaît sur l'écran, tenant son rôle dans ses bras comme un singe ou un enfant, ce sont tout le grotesque et toute la tendresse du monde qui vous tordent le cœur. En 1980, dans un cinéma de Montparnasse, je suis la sortie du Roi et l'Oiseau. On sait l'épopée de ce film d'animation, conçu en 1953, abandonné faute de moyens, désavoué par les deux auteurs, Paul Grimaud et Prévert, puis relancé et achevé par le réalisateur après le décès du poète. Librement inspiré d'Andersen, il offre un poète plus clair, plus transparent que celui de Carnet, un dialoguiste qui doit pouvoir parler aux enfants, mais sans mièvrerie, qui ne reconnaît d'emblée la griffe de Prévert dans le nom du roi, Charles V et III font 8 et 8 et 8 font 16. De belles images d'une ville qui mêle un Moyen-Âge de fantaisie à l'architecture angoissante des tableaux de Decherico délivrent une fable politique dans l'affrontement du roi qui louche et de l'oiseau prisonnier, comme des jeunes amoureux et de la brutalité du pouvoir. Les amants gagnent, évidemment, poursuivis par d'étranges machines volantes, ancêtres de nos drones, mais le royaume appelé de Cathy-Cardy, état totalitaire, ne résistera pas au battement des cœurs.
Et aujourd'hui?
Je continue de lire Prévert, d'écouter et de voir ses films, de me baigner dans l'insolence citronnée de ses chansons. J'avoue trier un peu plus, parfois la litanie l'emporte sur l'invention, parfois le manichéisme s'empare des fables, mais j'admire encore et toujours la gouaille libératrice du dernier vers de Lumière d'homme, dans le recueil posthume Soleil de nuit. Qu'est-ce que ça fout pourvu que ça flambe? Prenons-en de la graine et du feu.
Merci beaucoup Olivier Barbaran d'avoir partagé pour nous vos souvenirs des films de Prévert, et puis je vous dis à très bientôt. La compagnie des œuvres, elle se poursuit sur France Culture. Nous parlons toujours du cinéma de Prévert en compagnie de l'écrivain, cinéaste et historien du grand écran, Noël Herpin.
J'aime Arletty. Arletty n'est pas charmante. Arletty, c'est le charme. Arletty n'est pas drôle. Arletty, c'est l'humour. Oui, Arletty, c'est l'humour, avec tout l'amour de la vie et sa compréhension. Arletty, elle est partout chez elle. Puisque partout pour elle, c'est la vie. Elle est en famille avec la vie. Sa voix qu'on dit de Paris, c'est une voix de bien ailleurs aussi. Une voix dans l'autrefois d'aujourd'hui. Et quand c'est la voix de la rue, c'est la voix de la rue. Quand la rue est un salon, un vrai, où on parle vivant, lucide, désespéré parfois, ou marrant en même temps, presque toujours. Arletty, je la vois au studio, traversant un décor, à demi nu. Et c'est la beauté. Les machinistes retiennent leur marteau et sans ôter leur casquette, la saluent du regard. C'est la beauté, toute simple. Pas l'érotisme préfabriqué, non. La beauté, la grâce et la lucidité.
Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
C'est drôle, on dirait que vous avez couru.
Oui, après vous.
Après moi? Et vous venez à ma rencontre?
Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors?
Alors,
comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant, je ne vous quitte plus. Où allons-nous?
C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien.
Mais c'est peut-être le même.
Non.
Oh, pourquoi?
Parce que j'ai rendez-vous.
Oh, rendez-vous? Destin tragique. Voilà seulement 2 minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, et me quitter pour quoi? Pour qui? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet autre?
Oh, moi, j'aime tout le monde.
Eh bien, voilà qui tombe à merveille. Je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il l'est, hein, jaloux.
Est-ce que vous en savez?
Oh, ils le sont tous, sauf moi.
Mais n'en parlons plus. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire.
Vraiment ?
Oui, vraiment.
Encore un dialogue culte, Noël Herbe, les enfants du paradis. Qu'est-ce que ça vous inspire, la relation, par exemple, avec Arletty, mais peut-être plus généralement de Prévert avec les acteurs ?
Ah ben, je pense que Prévert écrivait pour les acteurs, ça c'est clair. Il pensait aux acteurs, il venait sur le plateau regarder jouer les acteurs. Je pense qu'il donnait à Carnet quand même des petites indications discrètes de temps en temps. Et le rapport avec Arletty est assez fascinant parce que je pense que c'est vraiment Prévert qui a poussé pour qu'on donne Arletty. C'était ce qu'on appelait à l'époque une oseille. Hein. C'était une petite femme de revue qui jouait des rôles vulgaires. Et c'est vraiment Prévert qui pousse pour qu'on lui donne des rôles de caractère et des rôles beaucoup plus profonds. Donc ça commence avec Le jour se lève, Les visiteurs du soir, où elle a un rôle très androgyne, très ambigu, et puis Les enfants du paradis, où elle a un rôle d'une profondeur, d'une complexité, d'une richesse incroyable. C'est la femme dans toute sa diversité, dans toute son ambiguïté. C'est la femme qui se refuse à l'homme, qui se donne à qui lui plaît. C'est la fameuse chanson que va reprendre plus tard Juliette Gréco. J'aime celui que j'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois, etc. Donc il y a vraiment ce mélange de... Oui, encore une fois, ce côté, ce qui caractérise la poésie de Prévert, c'est le côté innombrable, anonyme, unanime, et en même temps une espèce de singularité qui se dérobe à toute étiquette.
Vous diriez ça, qu'il comprend bien, pardonnez-moi, vous croyez qu'il comprend bien les femmes et qu'il sait pour cela leur écrire des dialogues qui sont justes dans des scénarios qui leur correspondent bien?
Écoutez, je dirais qu'il comprend bien Arletty. Je suis pas sûr qu'il ait écrit pour aucune autre actrice des rôles aussi beaux que ceux qu'il a écrits pour Arletty. Je vois pas trop d'autres exemples aussi magnifiques.
Michel Morgan dans Quai des Brumes.
Dans Quai des Brumes. Oui, mais il a pas écrit pour Michel Morgan. Michel Morgan a été choisi après coup. Mm-hmm. Je crois que c'est pas elle qui devait jouer le rôle au départ. Donc non, je pense que Arletty a vraiment écrit des rôles pour elle et pour lui donner d'autres rôles que ceux dans lesquels elle était cataloguée. Et je ne crois, voilà. Donc il me semble qu'il y a là, vraiment une rencontre assez formidable qui est assez typique de Prévert aussi, c'est-à-dire de faire craquer le cliché. Et de faire en sorte que le comédien se débarrasse de son enveloppe pour atteindre autre chose. Et il joue à la fois du cliché d'Arletty hein, dans Les Enfants du Paradis. Moi, je me souviens quand je l'ai vu pour la première fois, quand j'étais gamin, j'étais très très frappé parce que j'avais lu des descriptions du film par Sadoul. Je la voyais comme une femme merveilleuse, etc. Puis j'entends cette voix un peu faubourienne, ça m'avait choqué. Et puis, en fait, il joue de ça. Et en même temps, elle échappe à ça parce que elle est celle qui échappe par excellence, qui échappe au désir des hommes et qui échappe à l'envie de la cataloguer.
Est-ce que l'acteur, quand il sait qui va être celui qui va être l'acteur à l'écran, est-ce que c'est ça qui permet à Prévert de faire un point de départ au scénario? Est-ce qu'il écrit pour les acteurs?
Je pense que, en général, oui. Mais en même temps, faut pas non plus situer l'inspiration de Prévert dans une espèce d'Olympe comme ça, absolue. Je pense que c'est quelqu'un qui s'adaptait beaucoup aux contraintes, qui a écrit pour des cinéastes très différents. Donc ça va de Carnet à Jean Delannoy, en passant par Cayatte, Autant Lara, etc. Alors bon, c'est vrai qu'il y a un rapport privilégié avec certains acteurs, mais il est aussi capable de moduler un personnage en fonction de telle ou telle contrainte de production. Ce qui est frappant, c'est de voir aussi à quel point il peut, lorsque il n'est pas arrivé à, si j'ose dire, à caser sa thématique ou à caser ses personnages avec Carnet, ben il va les déplacer ailleurs. Je pense par exemple à l'exemple des Portes de la Nuit. Hein, les Portes de la Nuit, il écrit ce scénario magnifique pour Marlène Dietrich et Jean Gabin. Ça marche pas puisque Marlène Dietrich ne veut pas jouer ce scénario un peu trop sombre avec des allusions aux histoires de la collaboration et l'épuration. Marlène Dietrich s'en va, Jean Gabin s'en va. Le film est joué par Yves Montand et Nathalie Nattier. C'est un échec noir qui va faire dire à Prévert, j'en ai assez de passer 2 ans à travailler sur un scénario qui était exécuté par un critique en 3 minutes, en 3 lignes. Et donc, il va déplacer complètement la thématique des Portes de la Nuit sur les Amants de Vérone d'André Cayatte, où on va retrouver à peu près, toujours les salauds et les enfants qui s'aiment, les collabos et les jeunes innocents, etc., mais dans le contexte de l'Italie fasciste, avec des règlements de compte, certains acteurs des portes de la nuit, comme Pierre Brasseur, mais voilà. Donc finalement, il développe un imaginaire personnel en fonction des contraintes de production. Il arrive toujours un peu à se débrouiller pour, plus ou moins en contrebande, pour exprimer son imaginaire, mais il n'est pas non plus prisonnier de voilà, c'est pas forcément par rapport à tel ou tel acteur dont il voudrait satisfaire l'image, hein. Je pense aussi à l'éclat.
Vous paraissez songeuse, Anne. Êtes-vous triste parce que tout à l'heure j'ai parlé trop librement d'amour?
Non, mon ami. Je ne vous en veux pas.
À quoi songez-vous, Anne?
Rien, mon ami.
À qui songez-vous, alors?
Vous ai-je déjà donné l'occasion d'être jaloux?
Fort heureusement, non. Je voulais simplement vous rappeler que bientôt vous m'appartiendrez tout entière. Vous m'entendez?
Je vous entends, Renaud.
Tous vos plaisirs, tous vos désirs, toutes vos peines, si vous en avez, c'est à moi que vous les devrez.
Aurais-je au moins le droit de rêver?
Le moins possible, Anne, je vous en saurai gré. Les rêves sont choses nuisibles et inutiles. Moi, je ne rêve jamais.
Un extrait des Visiteurs du soir. Je tenais à ce qu'on entende quand même cet extrait parce que j'imagine que c'est un film que vous aimez beaucoup, Noël Herbe, ne serait-ce que parce que c'est un film en collant et que oui. Vous aimez beaucoup les collants. Vous avez fait un documentaire sur ce thème sur France Culture il y a de ça quelques années. Mais aussi, écoutez cet extrait pour entendre la dynamique un petit peu entre les personnages de Renaud, ici Marcel Errant, et puis de Anne, Marie Déa, qui sont en fait des dynamiques de pouvoir. Il y a quelque chose de très très moderne quand même là, entre dans ce jeu entre hommes et femmes.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il Prévert est quelqu'un qui met en scène les tyrans phallocrates. Ça, c'est un thème qu'on a dans le Quai des Brumes avec le personnage de Michel Simon, qu'on va retrouver dans Le Roi et l'Oiseau beaucoup plus tard, 40 ans plus tard, avec le roi qui veut épouser la bergère en évinçant le petit ramoneur de rien du tout, est-il répété.
Un peu trop d'ailleurs. C'est peut-être un peu souligné, oui, le ramoneur de rien du tout.
Oui, oui, tout à fait. Mais il y a cette idée toujours d'une sorte de puissance de la masculinité, on dirait aujourd'hui toxique, je ne sais pas, mais enfin qui s'exerce sur des femmes prisonnières du désir des hommes. Évidemment, le jour se lève. Hein. Le jour se lève avec cet atroce personnage de Jules Berry qui pique à Jean Gabin une jeune femme qui est comme par hasard jouée par la petite fiancée de Prévert, Jacqueline Laurent, hein, qui était sa fiancée à l'époque. Et donc il y a vraiment cette emprise du phallocrate sur la femme, une sorte de confiscation.
Les femmes se rapprochent sans doute dans son esprit, pour ce qui concerne la domination, des catégories sociales qui sont aussi dominées, et les deux thèmes d'une certaine façon se rejoignent, se recoupent.
Oui, mais je pense qu'il n'aurait pas exprimé les choses comme ça, et que, en fait, les effets de domination et les effets d'oppression ou d'aliénation sont toujours celui des effets de langage. C'est-à-dire que, par exemple, Jules Berry, dans Le Jour se lève, pour y revenir, on ne sait pas trop de quoi il est coupable, on ne sait pas trop ce qu'il a fait avec cette jeune femme, qui est Jacqueline Laurent, dans Le Jour se lève. C'est une rhétorique, c'est une sorte de parole, une parole oppressante, aliénante, étouffante, et d'ailleurs, quand Jean Gabin assassine Jules Berry, il lui dit « Tu vas la taire ta gueule, tu vas la taire ta gueule ». Donc il y a vraiment une espèce de prison du langage. J'ai dit tout à l'heure à quel point le langage pouvait être, chez Jacques Prévert, le lieu d'un jeu ludique sur les apparences et comment finalement jouer à cache-cache avec le langage. Mais très vite, il me semble, enfin à partir de la fin des années 30 et dans les années 40, le langage se referme sur les personnages comme un piège et les détermine d'une manière étouffante, comme si au fond la fatalité historique, qui est celle de la France de ces années-là, ne pouvait être représentée qu'à travers des effets de langage.
Est-ce que l'humour peut jouer aussi ce rôle-là dans les films de Prévert, selon vous, Noël Herbe?
Bien sûr, bien sûr. Mais l'humour, il faut bien reconnaître qu'il est quand même un peu moins présent dans les films de cette période-là. On le retrouve un peu dans Les Enfants du Paradis. Et puis, ce qui permet d'y échapper dans Les Enfants du Paradis, c'est la nostalgie du muet. Hein. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que au cœur même de cette hypertrophie de la beauté verbale que représentent les dialogues de Prévert, il y a cette nostalgie du silence qui est, à mon avis, un thème de Carnet, mais que Prévert assume pleinement avec l'opposition entre le personnage verbeux, rhétorique, brillant et creux joué par Pierre Brasseur, le personnage de Frédéric Lemaître, et le mime qui exprime son amour en silence à travers donc la gestuelle, qui est le personnage de Jean-Louis Barrault.
Sur la nostalgie du muet, un extrait d'un entretien de Prévert avec Albert Riera du 6 mai 1960.
En entrant, on prenait un programme où tout était marqué, le nom des films, et en dessous s'ils étaient comiques ou dramatiques. Pour les films comiques, l'inscription était presque toujours la même. Rire inextinguible, ou désopilant, et hilarant, que ce soit Gribouille, Nick Winter ou Rigaudin. Pour les autres, c'était comédie légère ou drame angoissant. Ça changeait toutes les semaines. Après Zygomar, Zalamor, Le Vautour de la Sierra ou Les Pilleurs de Train. Derrière l'écran, il y avait un homme qui faisait tous les bruits avec un petit attirail qui n'avait l'air de rien. Des grelots, des papiers de verre, un sifflet, un revolver, des marteaux. Et c'était l'orage, le vent et la mer, ou le chant des oiseaux. Tout cela marchait en même temps que le piano. Le dimanche, quand c'était un film du Far West, un acteur habillé en cow-boy racontait le film en balançant son lasso. Une fois, pendant le massacre, un film terrible, où les Indiens tuaient tous les soldats réfugiés derrière leurs chariots, la musique, le bruit, les coups de feu, ça faisait un tel vacarme que les spectateurs mécontents hurlaient qu'ils n'y voyaient plus rien. Bison au film, c'était la marque de celui-là sur les affiches dans la rue. D'autres fois, c'était Triangle au film. Il y avait un triangle à la place du bison. Quand le film se passait à Paris, quelquefois on reconnaissait l'endroit où il avait été pris. Quand il y avait des histoires d'Apache, pas les peaux rouges, mais les bandits des mauvais quartiers de Paris, ça se passait dans la zone où mon père m'emmenait souvent et qui était pourtant calme et tranquille. Des soldats en bourgeron blanc faisaient l'exercice et comme au Luxembourg, on entendait le clairon triste.
On entend bien là, je crois, Noël Herbe, toute la nostalgie de Prévert pour les films de son enfance et donc les films muets.
Oui. Parce que je pense que Prévert, même s'il est le premier grand dialoguiste et le plus grand dialoguiste du cinéma français, je pense qu'on est tous d'accord à ce sujet, est en même temps un auteur de la parole coupable, de la parole nostalgique du silence, de la parole qui est consciente qu'elle est du côté du mensonge et que toute parole est douteuse. Et ça, c'est un thème vraiment très typique des années 30, et je pense que l'originalité de la Nouvelle Vague, ça va être de rompre avec ça, avec cette méfiance jetée sur la parole, dont Prévert aura été sans doute le plus grand poète critique, je dirais.
Et la Nouvelle Vague, quand même, a rendu hommage, me semble-t-il, à Prévert.
La Nouvelle Vague n'aimait pas beaucoup les films de Carnet, hein, si vous le rappelez, quand même. Mais bon. Mais, en tout cas... si vous voulez, la doxa à cette époque, c'était de dire les films de Carnet ne valent que ce que valent les dialogues de Prévert. Ce qui me paraît très injuste, car je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils se sont rencontrés, vous savez, autour d'une représentation du groupe Octobre, hein, la fameuse bataille de Fontenoy, où Carnet avait été très frappé par une phrase qu'il avait entendue, « Soldats de Fontenoy, vous n'êtes pas tombés dans l'oreille d'un sourd ». Donc ça avait beaucoup amusé Carnet. Et à partir de ce moment-là, il y a eu cette collaboration que j'ai dite, qui a duré d'ailleurs beaucoup, bien au-delà des Portes de la Nuit, puisqu'il y a eu ensuite La Marée du Port, qui reste un très bon film.
Alors quels seraient les cinéastes qui pourraient se revendiquer plus pleinement de ces scénarios-là de Prévert?
Ça aurait été intéressant que certains cinéastes s'emparent des scénarios non tournés de Prévert, car comme l'a montré Carole Orway, il y a eu beaucoup de scénarios que Prévert n'a pas pu faire, hein, des scénarios restés en suspens, des scénarios rêvés, il doit y en avoir une bonne cinquantaine, ça c'est un peu dommage. Alors ensuite, moi il me semble que quelqu'un qui a été vraiment dans la lignée du premier travail de Prévert, surtout le travail de Prévert avec Richard Potier dans des films comme Un oiseau rare et Si j'étais le patron, qui sont des comédies burlesques,
burlesque et loufoque très très amusante avec Max Derly en patron un peu cinglé. Enfin, c'est vraiment des films à la fois déjà sur le pouvoir, mais en même temps sur les jeux de langage au sein du pouvoir. Moi, quelqu'un qui pour moi a continué ça, c'est Alain René. Hein, Alain René dans Smoking No Smoking notamment, est vraiment quelqu'un qui continue la veine de ces films-là et de drôles de drames aussi. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire le jeu sur le nonsense anglo-saxon et le nonsense anglo-saxon tel que le voit un Français. Car je pense que Prévert s'est aussi beaucoup amusé des clichés anglo-saxons tels qu'ils pouvaient être perçus par un Français.
Donc toujours René, le langage, quoi. Et alors, en ce qui concerne Romer, qui est quand même le cinéaste que vous connaissez le mieux, avec Clouzot sans doute, puisque vous avez publié avec Antoine Debecq sa biographie aux éditions Stock. Et d'ailleurs, vous venez d'établir aussi l'édition des chroniques de cinéma sous le titre Le sel du présent, c'est chez Capricci. Est-ce que Romer en parle, par exemple, dans ses chroniques de Prévert ou pas du tout?
Je pense que pour la nouvelle vague, je veux pas avoir l'air méchant, mais je pense que c'était plutôt la nouvelle vague qui était méchante avec ce cinéma-là, parce que Prévert, ça représentait l'avant-garde, ça représentait quand même un certain esprit surréaliste, et donc c'était pas vraiment leur tasse de thé. Et puis Carnet, c'était quand même un cinéaste qui avait un grand prestige à ce moment-là, donc il fallait forcément attaquer. Je pense que les temps sont venus de voir que Carnet et Prévert, c'était vraiment une rencontre très équilibrée entre deux personnages antinomiques mais qui se complétaient. Je suis pas sûr que Romer aimait bien Carnet. Je suis pas sûr qu'il aimait tellement Prévert. Il aimait Carnet à cause de son sens du cadre, de son sens plastique, etc. Mais j'ai rarement lu sous la plume d'auteur de la Nouvelle Vague des éloges de Prévert. Peut-être parce que c'est encore une fois ce rapport critique au langage, à la fois cette manière de mettre en avant le langage et le langage comme quelque chose à la fois chatoyant et douteux, n'était pas tellement dans l'esprit des Cahiers du cinéma et la Nouvelle Vague, qui au contraire ont voulu plutôt mettre en valeur une dimension réaliste qui n'était pas dans l'esprit de Prévert. Prévert, le langage était un mirage.
Ouais. Alors, terminons justement sur le langage et sur les dialogues. Comment articulait-il dialogue et scénario, Jacques Prévert? Est-ce que vous avez l'impression qu'il faisait d'abord un scénario et qu'ensuite il faisait des dialogues, ou est-ce que finalement le scénario n'est jamais qu'une organisation de dialogue?
Je pense que c'était essentiellement un dialoguiste. Je pense qu'il n'aurait pas aimé qu'on dise ça. Vous savez qu'il disait, on ne peut pas séparer le scénariste et le dialoguiste. C'est comme si en peinture, on disait que celui qui peint l'arbre, c'est l'arbriste. Bon, donc et pour lui, c'était tout un. Mais enfin, il faut quand même constater que très souvent, Prévert est celui à qui on donne. Il se définissait aussi parfois comme un rempailleur, c'est-à-dire que un rempailleur de fauteuil ou de chaise. C'est-à-dire que parfois, on lui donnait des scénarios à retravailler et puis il retravaillait les dialogues tant bien que mal. Il l'a fait pour Génie, par exemple. Premier film de Carnet, mais pour bien d'autres films, pour Notre-Dame de Paris, enfin, pour citer bien des films sur lesquels il s'est contenté d'intervenir en tant que dialoguiste, parce que il était celui qui venait habiller des squelettes d'histoire qui n'avaient pas forcément été conçus par lui. Je pense que pour lui, le dialogue était l'opération principale, l'opération poétique.
Est-ce qu'on sait comment il y travaillait?
Oui, il travaillait beaucoup, mais ça, Carole Rouet en parle très bien. Il travaillait beaucoup avec surtout pour les films de Carnet, hein, mais aussi peut-être pour ceux de Grémillon, dont il faut rappeler aussi qu'il a beaucoup travaillé pour Grémillon, Remorque, Lumière d'été. Il travaillait avec des sortes de storyboards, hein, où il dessinait les personnages et où les dialogues venaient petit à petit avec des dessins de personnages et des précisions de la psychologie ou du caractère de chaque personnage. Mais aussi, en effet, d'une manière anticipée en fonction des comédiens qui étaient censés les interpréter. Donc il y a une rêverie sur les personnages et une rêverie sur le texte qui me semble plus importante chez lui que la dramaturgie. J'ai le sentiment que c'est pas quelqu'un qui s'intéressait tellement à la dramaturgie. C'est peut-être une limite, hein, de son écriture. On s'en rend compte quand on revoit Les Enfants du Paradis, qui est un film merveilleux, mais qui est pas forcément un film très bien construit. Ce sont des scènes dialoguées, tellement merveilleusement dialoguées qu'on s'ennuie pas une seconde, mais c'est pas tellement la progression dramatique qui l'intéresse.
Alors qu'est-ce qu'il faut vraiment regarder? Il nous reste 30 secondes. À ceux qui n'auraient pas vraiment la connaissance des films de Prévert, quel est votre top 3?
Ah bah, Les Disparus de Saint-Agile, je crois que je l'ai fait comprendre. Je viens de découvrir un film de Marc Allégret qu'il a écrit en 1934, L'Hôtel du Libre-Échange, qui est une des plus drôles adaptations de Feydeau qu'on puisse imaginer. Et puis, je dirais peut-être L'Affaire du Courrier de Lyon d'Autant Lara, qui est un film que je trouve génial, sur l'erreur judiciaire, sur le sosie, le dédoublement de personnalité, et sur la folie de la vox populi. C'est quelque chose qui est très actuel aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer aux États-Unis.
Et voilà qui nous donne de bonnes idées de soirées à rester chez nous, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup à vous, Noël Herbe. Je renvoie aussi nos auditeurs sur l'article que vous avez donné au collectif Jacques Prévert, Détonation Poétique, collectif issu d'un colloque qui s'est tenu à Cerisy en 2017. C'était la compagnie des œuvres, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Jeanne-Pin, Romain Billet et Jean-Frédéric. Ce soir, dans les fictions de France Culture, vous retrouverez l'adaptation du livre de Barbara. Il était un piano noir.